Binashka tergiverse intérieurement. Il se demande ce qui est le plus invraisemblable dans l'histoire de la colonisation de l'Abitibi. Avoir conçu un pareil plan et avoir même imaginé que les gens puissent survivre avec si peu de moyens. Ou avoir répondu à l'appel de la colonisation, y avoir survécu et surtout avoir réussi à faire naître des communautés.
Au début des années 30, le long de la vallée du Saint-Laurent, il y avait comme une espèce, disons, de gonflement de population.
Oliva Carrier.
Les terres arables étaient de plus en plus rares. Les parents divisaient leurs terres. Ça faisait des terrains trop petits pour pouvoir loger la nouvelle génération et établir des familles. De sorte que ce trop-plein de population-là, à un moment donné, s'est déversé vers les États-Unis.
Ben, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrage au Canada, il y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim.
Où ils immigraient vers l'Ontario. Là, il y a eu d'abord le plan Gordon, qui était un plan fédéral. Il était d'encourager les gens un retour à la terre. De sorte qu'avec le plan Gordon, il y a plusieurs Canadiens français qui s'est établis aux États-Unis, qui sont revenus au Canada.
De l'ouvrage, ils vont en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement.
Quelques années plus tard, le Québec, lui, il est embarqué avec le plan Vautrin. Donc, le gouvernement Tachereau, à ce moment-là, qui était premier ministre du Québec, en concertation avec le clergé, qui ont dit que le Québec était presque vidé de sa population. Et on a des terres nouvelles en Abitibi, donc il faudrait s'organiser pour peupler l'Abitibi. Et c'est comme ça que le gouvernement Tachereau a mis sur pied un plan. Ce qu'on appelle le plan Vautrin.
Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur dit et je continue à faire lutter.
Alors, le plan Vautrin, c'était d'occuper le territoire, d'offrir de nouvelles terres à ceux qui étaient dédiés à venir ouvrir des paroisses.
On était 9 enfants, on avait 4 garçons.
Thérèse Bourbeau-Dugré.
Puis mon père parlait de ça à ma mère, puis il dit qu'il y avait de l'avenir là. Elle voyait pas ça comme ça, puis ma mère pleurait. Elle pensait qu'il pouvait avoir de la misère. Mon mari était arrivé en 35, puis c'était le plan Vautrin. Alors là, ça, c'était le super plan. Ils ont pris des cultivateurs, puis des cultivateurs, ils sont montés avec leurs animaux, leurs poules.
Le clergé et le gouvernement s'étaient donné une structure qui était des associations diocésaines pour soutenir le recrutement des colons et des familles, les soutenir dans le voyage et les soutenir dans leur établissement. Alors, c'est comme ça que, par exemple, Relais s'est ouvert en 1932, Cléricy en 1935, Montbrun, même Évin, s'est ouvert dans ces années-là. Alors, disons, durant les années de 32 à 38.
Ne devenait pas colon qui voulait. On choisissait ceux qui étaient les plus susceptibles de réaliser l'idéal du retour à la terre. Voici les critères qui guidaient les choix des nouveaux colons. Tout aspirant colon, 1, doit être chômeur. 2, doit être sous l'assistance publique ou être exposé à le devenir à brève échéance. 3, doit être en bonne santé, de même que les membres de sa famille. 4, doit avoir un certificat de mariage authentique. 5, ne doit aller sur son lot qu'avec sa famille seulement.
Les colons qui étaient déjà rendus sur des lots de colonisation avaient besoin d'un secours particulier pour consolider ce mouvement de colonisation-là et d'occupation du territoire. Et c'est là qu'est intervenu le plan Rogers, qui est un autre plan du Québec.
6. Doit être capable de construire son camp. 7. Doit avoir les vêtements pour l'hiver, un poêle, une machine à coudre, ustensiles de cuisine, haches, etc.
L'Abitibi s'est développé pour ce qui est des fermes par des gens qui n'étaient pas tellement préparés à ça.
Fernand Bellumeur.
On les a amenés ici pour qu'ils sortent de la misère, qu'ils sortent de ce secours public.
Des gens libres que nous étions en 1914, nous sommes devenus, en quelques 10 années, de tristes dépendants des demandes extérieures, qui se faisaient de plus en plus minces à mesure que progressait la crise économique. En cette année 1930, différentes autorités de la hiérarchie gouvernementale ou autres commencèrent à prêcher le retour à la terre. Quelle trouvaille!
Il y en a qui étaient des fils de cultivateurs et qui savaient un peu comment procéder, mais il y en a d'autres qui connaissaient à peu près rien. Ils étaient chômeurs, ils n'avaient pas un sou dans leur poche, puis ils venaient sans outils, sans animaux, avec un petit peu de ménage qu'ils avaient fait transporter. Pas rien pour survivre le lendemain matin.
Dans la région de Montréal, à ce moment-là, le maire de Montréal, Camillien Houd. Camillien, lui, il avait un problème avec des itinérants. Il avait la crise qui sévissait. Alors, lui, il a tenté de profiter du plan Vautrin pour se débarrasser de ses fourmeurs et de ses itinérants. C'était des gens qui n'avaient aucune initiative. Il y avait de la déficience mentale là-dedans, des gens qui étaient malades. Ils n'avaient jamais vu une vache. Ils ne savaient pas c'était quoi un râteau. Alors, ça arrive ici en Abitibi, sur un lot de colonisation, une terre en bois de boue. Les voisins ont été obligés de les prendre en phare.
8. Doit avoir une épouse qualifiée. Un colon mal marié ne peut réussir. Elle doit connaître la couture, le tricotage et tous les travaux ménagers. Elle devra apprendre à cuire le pain si elle ne le sait déjà.
Ça coûte cher de ce temps ici pour se nourrir à que dit, pour pas que ça monte à la grosse. Je me tape fort sur les biscuits.
Pour recruter, il fallait quand même qu'ils fassent voir la vie en rose à ces gens-là. On disait qu'ils allaient établir leur famille, avoir des enfants, devenir autonomes dans votre nourriture. Et ça, ça plaisait beaucoup. On va développer un pays neuf et on va aller fonder notre royaume.
Il y a des colons qui arrivaient, qui se faisaient débarquer leur bagage sur le bord du train. Puis là, il arrivait le tracteur.
Laurent Roy.
Puis ils apportaient le long de la rivière. C'était pas défriché, c'était en plein bois. Alors, ils étaient obligés de transporter ça avec des sloops et des chevaux, ceux qui en avaient. Puis la petite misère, moi, anyway.
On disait, bon, il y a des possibilités économiques. Et sur votre terre, là, une fois défriché, vous allez produire des légumes. Rouen est tout près, Noranda est tout près. C'est des grosses villes industrielles. Vous allez pouvoir écouler vos produits-là. C'est déjà vendu d'avance. C'est des mineurs, ils ont un gros appétit. Ils vont vous dévorer vos œufs. On a dans le temps de le dire, vos poules fourniront pas.
Il y avait 8,33 $ qui donnaient par mois à chaque cultivateur. Puis ils fournissaient des patates pour semer. Puis un paquet de graines, des carottes, des choses qui ne gèlent pas comme des raisons parce que ça gelait dans le temps.
Les hommes montaient d'abord, puis c'était fait comme une chaîne de montage. Il y en avait qui faisaient la maison, qui bûchaient le bois, puis d'autres qui faisaient des écories, il y en a qui faisaient les couvertures, d'autres posaient les châssis. Il n'y avait pas beaucoup de châssis, mais il en fallait quelques-uns, des portes, puis d'autres défrichaient en s'en allant.
Le bois appartenait aux compagnies. Ils pouvaient abattre un arbre sur leur lot pour se construire, faire leur maison ou leur grange ou les bâtiments. Ça, il n'y avait pas à payer. Mais quelqu'un qui vendait un arbre pour se faire de l'argent, il se faisait prendre, c'était pas lui. Les compagnies forestières, d'abord, en général, avaient passé avant. Ils avaient pris le meilleur. À tel point qu'il y a des colons qui sont arrivés qui n'ont pas été capables de se construire avec des maisons en bois rond parce qu'il n'y avait plus de bois sur leur lot suffisamment pour se faire même une maison. Il y avait, pendant 2 ans, 500 $ ou 600 $, je pense, pour la première année, qu'on leur donnait en jetons pour pas qu'ils aillent dépenser ça n'importe où. Et donc, dépendant du marchand qui recevait le jeton puis qui l'échangeait, qu'il ne pouvait pas acheter ailleurs.
Marchandises autorisées. Papier à cassonade, bois charpente et alambré,
clous de girofle, bretelles,
farine,
glaise,
bottes,
grûlure,
lacets, cuir et coton,
lard, mélasse,
lait en poudre,
lait évaporé,
poignée de porte,
lait condensé,
pour enfants seulement.
L'année d'après, c'est 200 $. Puis après ça, c'est fini. Puis ils avaient un octroi par le nombre d'heures qu'ils développaient, mais quand même, ils étaient assez dépendants du revenu qu'on leur donnait. On les engageait pour faire les routes, les rangs et tout, à leur donnant 1,60 $ par jour. On gardait 30 cents pour la pension, gardait 1 $ en réserve pour la famille. Je sais pas, mais il leur restait 30 cents par jour pour acheter une pelle, mettons, ou acheter une hache. Ils arrivaient avec rien.
Les colons, ben, ils travaillaient l'été sur la terre pour défricher. Et l'automne, ben, ils s'en allaient travailler dans un chantier. Il y avait des chantiers tout le long de la rivière Canoe-Javis. On bûchait l'hiver, puis au printemps, on dravait. On ne descendait pas tous les jours chez nous. Là. On restait dans le bois à partir de l'automne, aller à la drave au printemps.
On disait aussi que que le foin poussait. Le plus beau foin en Abitibi que le long du fleuve, même pour les céréales. On parlait aussi dans le bulletin des agriculteurs. Alors, il y avait toute une paperasse, disons, pour mousser leur message.
De gens méconnus que nous étions, ainsi que nos premiers défricheurs, nous étions devenus les hommes et les femmes du jour. On ne nous appelait plus les habitants avec des dents, mais selon la propagande, nous étions devenus des gens de cœur, des fiers, des intrépides à qui la forêt épaisse et entêtée avait cédé à la dure cognée pour faire place à de beaux champs où pèsent les troupeaux ou encore à des champs où les épis dorés de blé s'inclinent, comme pour la prière du soir.
Dans le temps, il y avait rien. Fait que là, c'était sauf qui peut. Il fallait défricher, faire des jardins pour avoir des légumes, puis ça gelait. Ça gelait, je pense que la terre dégelait à peu près deux mois par année. On le disait pas trop, ça, mais beaucoup de colons ont retourné par chez eux. Ils ont dit, on a monté mourir chez nous, qu'on est mourir dans le bois, et c'est.
On est des petits-fils de pionniers qui ont dû développer cette entraide-là, et peut-être rentrer dans nos mentalités, ça, cette question de collaboration.
Les gens avaient besoin de se regrouper puis d'avoir du fun ensemble. Alors, si tu avais des musiciens, bien, ils faisaient de la musique.
Louis Briand.
Puis pourtant, il était arrivé dans des endroits qui n'avaient pas d'allure.
Le mouvement de colonisation s'est terminé. Il y a eu la guerre, 39-45. Il y a eu à ce moment-là beaucoup de jeunes qui ont été embauchés dans l'armée. Le gouvernement devait investir plus d'argent pour soutenir l'effort de guerre, en a mis moins pour soutenir le mouvement de colonisation.
Mais ceux qui ont passé à travers ça, je ne sais pas comment, ils sont devenus souvent des pionniers très dynamiques parce qu'il y avait un passé, ces gens-là. Ils ont été déracinés parce que c'était la crise. Mais s'ils n'étaient pas dépressifs, ils passaient à travers puis ils réussissaient. Ils étaient des gens créatifs. Tu sais, c'est nos grands-parents ou nos parents qui étaient des pionniers. Donc, s'ils sont restés, c'est parce qu'ils avaient les qualités pour rester.
Conrad, Blanche, Barthélemy, Dina, Léonidas, Télésphore, Marie-Rose, Rona, Zénaïde, Regina, Majoric, Angelina, Ulysse, Ulgé, Wilfrid, Médéric. Trois petits points.